C'est le blockbuster de la semaine, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, un film signé Cathy Yan avec Margot Robbie, Mary-Elizabeth Winstead, Journey Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella J. Basco et Ewan McGregor, un film qui va nous être introduit par Nam.
Can I help you?
Why, yes, yes, you can. I'm here to report a terrible crime.
And what terrible crime is that?
This one. Ah, shit. I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within. It's oh so quiet. Now that I cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people want me dead.
Ce film fait suite à les squads Suicide Squad, où tout le monde s'était à peu près accordé à dire que c'était franchement pas terrible. C'est un peu ce film aussi d'ailleurs après les échecs critiques de Justice League et Batman vs Superman qui ont fait que la Warner s'est décidée à arrêter de faire des films à suite dans l'univers partagé et faire des histoires qui se tiennent, un film et une histoire, mais en essayant quand même de garder le personnage l'interprétation de Margot Robbie d'Harley Quinn, personnage qui avait déjà été remarqué dans Suicide Squad, parce que voilà, on peut quand même trouver de... Non, je vais pas le faire, non. On peut quand même trouver des perles au milieu d'un étron, mais voilà.
c'est fait.
Voilà, bon. Je verrai si je le garde au montage. Bref. Et donc, suite à Suicide Squad, où l'interprétation de Jared Leto en Joker avait laissé les gens plutôt pantois, pour pas être méchant, il a été décidé voilà, de garder Harley Quinn et de virer le Joker, ce qui fait que Jared Leto... n'a plus de contrat en ce moment pour jouer le Joker et n'apparaît pas dans le film. Et donc, Harley Quinn se retrouve toute seule. Et le film parle de ça, en fait, de l'émancipation d'Harley Quinn.
Ah bah non, juste en anglais, du coup, en français, c'est juste en histoire, voilà. Hein.
Alors, en français, le film parle de l'émancipation de tous les personnages féminins du film, en gros. Parce qu'en fait, voilà, toute l'histoire tourne autour de Harley Quinn, mais un peu à la manière... ça m'a fait penser un peu à la construction à un Snatch, par exemple, avec plusieurs groupes de personnages qui sont tous reliés plus ou moins par des liens, parce qu'ils se connaissent tous, ils se croisent tous, et ils cherchent tous le même putain de diamant, et avec un grand méchant totalement fou qui plane au-dessus d'eux comme une menace parfaitement tangible.
Une menace parfaitement tangible, donc avec Ewan McGregor.
Oui, qui joue Black Mask, voilà. Qui est un
cabotine plus que jamais.
Oui. Tout à fait. Mais c'est pas le seul à cabotiner. C'est vraiment ce qui m'a exaspéré dans le film, et surtout le début. Après, je sais pas si c'est moins présent ou juste je me suis habituée, mais particulièrement le personnage de Margot Robbie. Enfin, j'avais l'impression de voir, je sais pas, Eva Green sous amphétamine. J'aime beaucoup Eva Green, hein, mais...
Mais pas sous amphétamine,
voilà, c'est un peu ça. J'imagine que c'est censé donner au film son côté un peu fun, son côté un peu pop,
en fait,
mais...
En fait, ils ont voulu faire Suicide Squad plus Deadpool, en fait. C'est ça, en fait. Ils ont voulu tout le côté métal.
Sauf que Deadpool...
Ils ont voulu incruster ça aussi.
Deadpool est violent, quoi. À la limite, il y a du sang, etc. Là, tu fais pas plus clean.
Non, là,
quoi.
C'est juste regard caméra, le petit ting. Enfin, c'est vraiment très, très lourd au début.
Il y a beaucoup de cassage de genoux. Il y a un truc avec le cassage de genoux dans ce film. Mmh. Je sais pas si vous avez remarqué, les articulations elles prennent très cher. Et puis il n'y a pas de sang du coup, donc je pense que c'est surtout pour ça qu'il casse les genoux.
Mais après, le film, par rapport à d'autres tentatives récentes de blockbuster, le film d'action avec une tendance un peu féministe, mais je trouve que là, c'est pas lourdement amené, ça s'inscrit bien dans l'histoire. Si on compare avec, on a eu récemment Ocean 8, où ça marchait pas du tout. Parce que c'était très appuyé, ça fonctionnait pas, on sentait que c'était incrusté au forceps dedans. Il y avait aussi le Charlie's Angels, le nouveau, où ça n'existait que pour ça et ça fonctionnait.
Bah oui, parce que là, au final, l'émancipation, c'est le cœur du film. Ouais. Donc forcément, tout le discours féministe est intégré directement dans cette...
Au moins, c'est pas lourdingue. Voilà, c'est
sauf une scène. je trouve, la scène où, défeuillage forcé dans le club d'Ewan McGregor, qui était un peu longue et un peu forcée. Et pour le coup, il y a quand même plus simple à faire, il y a plus subtil à faire.
Mais surtout,
et,
cette nana, elle peut détruire tout le monde dans ce club, et elle pleure et s'en va, et on est censé... Enfin, t'es dans un film de super-héros, quoi. Pourquoi elle fait rien?
Bah, elle veut garder sa couverture, voilà... Non,
c'est une random qui se retrouve.
Oui, mais là, mais, tu sais, c'est une des trois Birds of
Prey. Il y a Black Canary qui est là.
Non, bah, chacun sa merde. Hein.
C'est ça, vraiment. Moi, juste pour rebondir sur l'émancipation, moi, je ne comprends absolument pas cet aspect dans le film parce que au bout de 3 minutes de film, elle est émancipée, quoi. Elle défonce l'usine. Elle a un money shot où elle avance avec l'explosion derrière. Émancipation terminée.
Non, parce qu'il y a plein de dialogues où elle se remet à parler du Joker. Il y a tout au long du film, c'est un fil rouge où on sent qu'elle s'en est pas remise, où ça revient quand même plusieurs fois dans les conversations.
Sens qu'elle est encore amoureuse de lui, etc. Voilà, donc,
la base de la relation du Joker, c'est ça. C'est le Joker, on n'a rien à péter d'elle. Et elle est folle dingue. Et elle voudra pas le lâcher, quoi qu'il fasse, peu importe les erreurs qu'il fasse. Bon, pas là, mais...
Et au-delà, c'est pas seulement l'émancipation qu'elle peut avoir d'un point de vue personnel, mais c'est aussi l'émancipation que lui accorde la société, en fait, que lui accorde la vision que les autres ont d'elle. Enfin, il y a tout d'un coup... Enfin, voilà, le gros cœur du film, c'est qu'il n'y a plus la protection du Joker qui lui est rattachée. Du coup, bah, tous les gens qui voulaient la tataner, mais qui ne le faisaient pas parce qu'ils avaient peur des représailles du Joker, bah, tout d'un coup, ils se disent, c'est bon, c'est plus chasse gardée, on peut y aller.
La chasse est ouverte.
Voilà. Et puis, derrière ça, tu as le personnage de Ewan McGregor, tu as le personnage de Black Mask, donc, qui va essayer de lui dire, non, bah, écoute, bah, maintenant, viens sous ma protection à moi. Grosso modo, tu peux pas rester une femme seule, etc. Donc, il faut que tu passes d'un protecteur à un autre parce que tu peux pas te défendre toute seule. Et ça, c'est une réalisation qu'elle va mettre quand même plus de temps dans le film à réaliser. Pas forcément, voilà, c'est pas qu'elle se met en quête elle-même d'un protecteur, mais en tout cas de se rendre compte à quel point ce discours est débile, en fait, et à quel point, merde, c'est moi Harley Quinn, quoi.
Et puis elle met du temps aussi à se rendre compte qu'elle est en danger. Elle est pas au courant tout de suite, hein, quand les trucs se mettent en route. Elle fait sa vie, s'achète une hyène, voilà. Et après c'est quand les trucs lui tombent dessus que là véritablement le film commence.
D'ailleurs je suis déçue parce que la hyène elle est en très gros sur l'affiche, mais on la voit presque pas, voilà.
Oui, alors qu'elle avait le meilleur rire. Toutes les scènes où il y a la hyène, à chaque fois que tu l'entends rigoler, c'est le meilleur moment comique pour mettre ce rire. Ils sont vraiment bien démerdés que Harley.
Et puis ils ont essayé de faire ça, bon c'est moins abouti que pour Harley Quinn avec les autres personnages du film, avec le personnage de la flic qui s'est plus ou moins fait voler une promotion par un collègue.
Montoya.
Voilà. Il y a aussi le personnage de Black Canary qui a eu sa famille trucidée par la mafia, où c'est un peu plus cliché mais où ils essaient d'introduire...
Non, c'est Huntress dans la famille.
Huntress, oui.
Par la mafia. Voilà. Et Black Canary, tu comprends que ça, sa mère a été tuée par une justicière.
Vraiment, c'est l'un des pires films que j'ai vu depuis très longtemps. Vraiment, c'est l'un des pires films de super-héros que j'ai vu depuis très très longtemps aussi. Je trouve ça, mais je comprends même pas en fait ce que... En fait, je comprends déjà pas les enjeux du film tout court. Déjà, je sais même pas de quoi ça me parle, etc. Le côté émancipation, oui, mais le problème c'est que Harley Quinn c'est quand même un personnage au départ très ambigu. Enfin, c'est pas un personnage positif. Alors déjà dans Suicide Squad, il y avait une scène incroyable derrière un bar où je me souviens un des méchants disait que celui qui avait le pouvoir du feu là, il avait tué sa famille par accident. Et je me souviens de cette scène où elle lui foutait la honte, elle lui disait comment t'as pu faire quelque chose. Enfin Harley Quinn quoi, qui fait la morale à quelqu'un. Pour moi il y a une incompréhension du personnage. Et alors il y a un passage qui m'a absolument fasciné où il y a tous ces petits jeux d'afficher les noms des gens et de dire pourquoi ces gens sont énervés contre elle. Bon, on a compris au bout de 2 fois, ils le font 50 fois. Il y a un moment où c'est Ewan McGregor, et dans les trucs qu'ils mettent, ils mettent à voter pour Bernie Sanders. Et ça, mais le mindfuck, comment tu peux... Donc, Harley Quinn a été un dimanche à la mairie voter pour Bernie Sanders, parce qu'elle est de gauche, elle est démocrate, tu vois. Mais c'est pas possible, quoi, de penser des films de cette façon, c'est pas possible.
Moi, pour le coup, je serais moins vindicatif que toi par rapport au film, au personnage Harley Quinn. Le truc, c'est que moi, je considère qu'Harley Quinn, c'est un peu comme le Joker et Batman. Les personnages, ils changent tout le temps. Et c'est le point fort aussi de ces personnages, c'est-à-dire qu'à chaque version où tu les vois, c'est une version différente.
Enfin, une version qui vote Bernie Sanders et qui va au magasin bio, tu vois. Parce que c'est démocrate féministe.
Moi, là où je veux en venir, c'est que Harley Quinn, c'est un personnage qui a beaucoup évolué. Et je sais qu'il y en a qui sont encore. Alors, je sais pas que c'est ton cas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont encore en Harley Quinn, le personnage sympa, mais victime du Joker dans le dessin animé des années 90. Entre temps, elle a été intégrée dans les BD, et Harley Quinn s'est aussi émancipée dans les BD, et dans les BD, c'est un peu c'est l'équivalent de... C'est un Deadpool au féminin, clairement. C'est un truc très cartoon, très sympa, plutôt joyeux. Alors, les aventures d'Harley Quinn solo, parce qu'après, t'as les aventures d'Harley Quinn où elle est avec d'autres équipes, la Suicide Squad ou d'autres, voilà. Où là, par contre, il va y avoir des choses un peu plus sérieuses, mais Harley Quinn, c'est toujours ce personnage qui est en décalage totalement avec les autres.
Sauf que là, t'es d'accord quand même pour dire qu'à la différence d'un Deadpool qui n'a aucun, mais alors zéro message... à ma connaissance, sur quoi que ce soit, tu vois. Là,
il y a quand même une espèce d'acceptation, des rejetons, même si c'est pas très fin,
mais alors là,
il y a quand même,
tu es blindé tout le temps de références sur l'émancipation féministe, etc. Moi, je trouve ça, mais d'un racoleur, mais c'est vraiment le féministe de bac à sable absolu, vraiment, avec 15 000 coups de pied dans les couilles et tout.
Alors,
je trouve ça sympa dans une bande-annonce, au bout de la 50e fois dans le film, bon, ok. Et même, je trouve ça, mais presque... C'est-à-dire qu'elle n'est même pas héroïne de son propre film, parce qu'on me balance donc ces autres personnages dont je me fous, d'une gamine, ça fait 50 films de super-héros avec des enfants...
Deadpool, là aussi.
Mais bien sûr, enfin... Il y a cette scène incroyable où c'est un gag où elle ouvre un placard et il n'y a pas d'armes, tu vois. La blague marche.
Oui, oui.
Et là, en fait, il y a une des personnages qui se cogne le pied contre une mallette et il y a plein d'armes dedans.
Mmh.
T'es là, mais vous faites même pas l'effort, en fait. Vous faites même pas l'effort scénaristiquement me dire « Ah ben en fait, il y a pas d'armes, on va... trouver, on va au moins descendre un escalier et trouver des armes, parce que moi ça m'énerve, je regarde le film, je suis énervé, quoi, vraiment. Et le discours politique me rend ouf, mais vraiment, je peux plus.
Moi pour le coup, après, bon, voilà, c'est que moi, vraiment, je suis sorti du film, j'ai repensé au film, j'ai fait, alors attends, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à dire que c'était féministe, c'était pourquoi en fait. Et en fait, je me suis revu tout le film, j'ai fait, ah oui, en fait, ok, d'accord, mais pendant la vision du film, c'est un truc qui m'a pas du tout marqué. Mais parce que j'ai trouvé que c'était, alors sauf la scène des feuillages totalement gratuite et forcée, c'était quelque chose qui rentrait naturellement dans les thèmes du film et dans l'évolution des personnages qu'on
présente. Ouais, mais elles sont même pas iconisées, tu vois, de cette façon.
Ouais, mais justement, quelque part, enfin, je trouve que les iconiser, ça aurait été quelque part tombé dans un certain piège qui est
Je dis pas les iconiser de façon sexuelle.
Oui, j'ai compris.
Techniquement, ce film, on a quand même la 3 ou 4 origin story en même temps, dans le même film. C'est normal que ces personnages-là soient pas déjà au top niveau à la fin du film ou pendant le film. Sinon, il n'y a aucun intérêt, en fait.
Mais ils sont pas intéressants. C'est des introductions de personnages qui durent une heure de film. Ça passerait peut-être dans une série avec un personnage par épisode, mais dans un film, je suis désolé.
Et à ce sujet... On en parlait, enfin tu en parlais, Nam, dans l'épisode sur Sonic, le fameux truc de mettre la scène de la fin au début pour rendre ça plus intéressant.
Oui,
là, le film le fait, et il le fait genre 3 ou 4 fois.
C'est artificiel au possible.
J'en pouvais plus, quoi. À mon moment, je me suis dit, non, sérieusement, enfin...
Pour le coup, moi, je trouvais que c'était un petit peu... Parce que le problème, par exemple, qu'il y avait eu avec Suicide Squad, c'est qu'ils nous présentent 6 personnages dans les 10 premières minutes, et après, le film part, et c'est « démerde-toi ». Et tu vois le personnage qui parle un peu, on fait croire que c'est une famille et tout. Et tu fais, ils ont passé genre 20 minutes ensemble, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Là, au contraire, ils ont pris le pari de nous présenter les personnages au fur et à mesure. Et en final, ce moment où comment le film coupe et tu reviens en arrière, c'est parce que t'arrives à un moment où il y a un personnage qui arrive, et toi, devant ce film, tu fais, ok, attends, stop, je sais pas qui c'est. Et le film te le dit, ok, on sait pas qui c'est, on attend 2 secondes, on revient, on t'explique, et l'histoire va pouvoir continuer, et comme ça, ça évite d'avoir... 5 histoires au début à retenir.
Je trouve pas ça plus fluide. Je trouve pas ça plus fluide.
Moi, j'ai trouvé ça mieux. Après, et je trouvais que c'était mieux géré que dans Deadpool, par exemple. Parce que le problème qu'il y avait dans Deadpool, c'était que t'avais une scène. T'as une scène à laquelle on n'arrêtait pas de revenir. Et après, enfin, le film continue.
Mm.
Là, on a ce côté. Alors, certes, il y a des moments où on revient en arrière. Mais à chaque fois que t'avances, c'est bon, on a avancé, on a vu. Il n'y a pas un truc où tu reviens encore à la même scène, encore et toujours.
Ouais.
Là, je trouve qu'il y a vraiment ce côté progression qui marchait mieux.
Tu compares à Deadpool, et je ne suis pas le fan numéro 1 de Deadpool, mais Deadpool, au minimum, Il fait tellement... En fait, c'est un film de stand-up, limite. Il fait que parler et faire des blagues.
Ah oui,
de...
non, mais ça,
et ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins un petit côté irrévérencieux. C'est pas fou. Dans... Là-dedans, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu
sais,
t'as le moment, c'est débile, mais le moment où on voit sa meuf avec un gars de ceinture et lui à quatre pattes, tu vois. C'est un truc osé dans un film de super-héros dans Deadpool. T'as quoi d'irrévérencieux dans ce film?
Mais après, c'est aussi, je pense que tu veux des choses dans le film qui n'étaient pas...
Non, mais c'est censé être les intentions. C'est un anti-héros quand même, Harley Quinn.
Bah, plus maintenant. En fait, c'est ça le truc aussi. Ouais, c'est que ça, depuis qu'elle a quitté le Joker, Harley Quinn... C'est un peu comme Catwoman.
Tu la vois.
Parfois elle est méchante, parfois elle est gentille.
Tu la vois voler dans un magasin. Tu la vois faire des mauvaises choses. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, des mauvaises choses. Mais après, c'est par rapport à la moralité du personnage. Harley Quinn, c'est un peu comme le Joker. En fait, sa moralité, personne n'en a rien à faire. Et eux, les derniers, ils font ce qu'ils veulent. La différence, c'est que Harley Quinn, tant que tu la laisses tranquille, elle dira pas de buter, tu vois. Ça va, elle est plutôt sympa en général. Et, après, et en fait, c'est surtout ça le truc, c'est que moi, ce que je pense, c'est que Harley Quinn, bon voilà, elle fait sa vie, elle fait ses trucs, mais à la fin du film, on a quand même le groupe de personnages qui se séparent en deux. D'un côté, t'as le groupe d'héroïnes qui ont des costumes tout pourris, bref. Groupe d'héroïnes dont je me demande s'ils vont refaire un film un jour, parce que, enfin,
c'est censé être les Birds of Prey.
Voilà. Après, bon, les Birds of Prey, il y a d'autres personnages, je crois qu'il y a Barbara Gordon, voilà, qui peut se remettre dedans. Et d'autre côté, Harley Quinn qui part
elle
avec.
Elle a des super fringues.
Oui, qui est la mieux habillée du film.
Ouais. Et qui joue
avec Cassandra.
Quand même, Black Canary, elle a un pantalon un peu bronze au début qui me plaît beaucoup. Là.
Mais c'est fou parce que c'est alors, des super actrices.
Petite précision sur le personnage de Cassandra Cain, celle qui avale le diamant. En fait, c'est un personnage de comics qui fait partie de la famille de Batman normalement. Et son nom de super-héros, c'est Orphan, parce qu'elle est orpheline. Et là, tout ce qu'ils ont gardé, c'est qu'elle est orpheline. Voilà.
Et elle sert à rien. Elle est.
Bah c'est le MacGuffin du film.
Ouais, mais est-ce que je vais peut-être sur une note subjective, mais dire peut-être que j'ai vraiment une lassitude et que c'est ça qui me rend aussi vindicatif avec ce film qui mérite peut-être pas.
Parce que honnêtement, c'est clairement pas le pire que j'ai dans
Mais moi, ce qui me fait m'énerver, c'est ce discours. Ce discours gauchiste, tu vois, de Harley Quinn qui vote Bernie Sanders, c'est pas possible dans ma tête, tu vois. Il y a un court-circuit, quoi. Là que tu te dis, gens qui font ça.
Et tu n'as pas compris Batman.
Pourquoi ?
Parce que Batman est un fasciste de droite et tous ses ennemis sont à gauche.
Mais oui, en plus.
Techniquement, il y a un peu de ça dans Batman.
Bien sûr, comment on appelle ça
C'est un fasciste. Hein.
un vigilante,
c'est un
voilà.
Vigilante, c'est ça.
Non, clairement, mais le problème de prendre des anti-héros et de clairement avoir cette vision des choses, donc on est une certaine élite hollywoodienne, anti-Trump, etc. Parce que la longue scène d'Ivan McGregor qui déshabille la nana, mais elle sert à quoi cette scène à part dire les hommes de pouvoir.
Pour moi, c'est la seule scène qui
n'aurait pas dû être dans le film.
Ouais. Rappeler ça.
Parce que à côté de ça, les personnages de McGregor, je l'ai trouvé plutôt bien pour ce qu'il a raconté. Tu comprends qu'il a une fascination pour les visages, ça, il n'y a aucun souci. Et moi, j'ai bien aimé le moment où il présente sa collection de jouets à Black Canary, où d'un coup, le personnage, il change. Il est trop content, il dit « Ouais, regarde, c'est des trucs d'acupuncture et tout !» Alors qu'il n'était pas du tout comme ça. Et voilà, moi, j'ai bien aimé plutôt... Après, bon, il est totalement oubliable. Hein,
Mais
en même temps, c'est Black Mask, c'est un personnage qui est tellement oubliable.
D'ailleurs, j'aime bien sa fin où, clairement, on n'est pas en train de s'attarder sur...
J'ai beaucoup rigolé.
Voilà, t'es juste là, alors, ok, bon, allez, ça, c'est réglé.
Et d'ailleurs, j'ai vu des critiques, des personnes qui disaient, oui, alors c'est quand même dommage, c'est Gotham, oui. Il n'y a ni le Joker, ni Batman. Sauf qu'en fait, t'aurais mis le Joker et Batman, tout le côté émancipation du film, il se serait cassé la gueule. Tu fous pas un personnage masculin invincible si c'est un film sur l'émancipation de tes personnages féminins. Ça, c'est ta vision.
Mais clairement, mais c'est aussi, tu sais, cette vision de faire des.
Parce qu'après, le
strong female, independent role, tu vois. Mais le problème de ça.
Mais justement,
c'est que t'as des personnages.
Harley Quinn n'est pas indépendante.
Mais tu veux dire, au début elle l'est pas, à la fin elle l'est?
Non, même à la fin elle l'est pas. Ce que je veux dire, c'est que le personnage Harley Quinn, au début du film, elle quitte le Joker. Tout le monde lui dit, elle va forcément retourner vers le Joker. Harley Quinn, pendant le film, dit qu'elle a besoin de vivre avec quelqu'un. Et à la fin, elle se trouve une fille d'adoption. Et en fait, c'est ça l'évolution du personnage. Elle passe de compagne soumise à, malheureusement pour la gamine, modèle féminin.
ouais. je sais même pas. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment des gens qui prennent ces mythes et ces et qui savent pas quoi en faire et qui les adaptent en plus à une certaine vision du monde qui... Je veux dire, tu
c'est,
vois
ça
ce...
Ça a toujours été comme ça.
Bah oui, non, mais imagine, tu vois ce film dans 10 ans si Bernie Sanders n'est pas élu président. Ça ne fait pas sens de voir, ah, elle a voté Bernie Sanders, donc elle est de droite, etc. Elle est de gauche. Tu... Ça ne fait pas sens dans 5 ans. C'est des films qui
ça,
meurent.
C'est...
Ils sont instantanés.
Excuse-moi,
quoi.
Mais bon, tu parles pas de Paris, du Bernie Sanders depuis tout à l'heure. Le Bernie Sanders,
ouais.
C'est un truc qui apparaît pendant 2 frames dans le film, quand même.
Oui, mais ça voilà. C'est révélateur de
non,
la...
Non, mais tu t'énerves sur un easter egg. Hein.
je suis d'accord. Mais
et puis j'ai l'impression que c'est plus que pour montrer qu'elle vote à gauche ou quoi, c'est parce que... Pour une grande majorité des Américains, Bernie Sanders, c'est un communiste. Quoi. Donc c'est choquant
oui.
en soi de voter pour Bernie Sanders.
Et socialiste, communiste et nazi aux États-Unis, c'est-à-dire pareil, hein, ils sont un peu cons.
C'est pas choquant à Hollywood où tout le monde...
Nous sommes désolés, nous nous excusons auprès de nos auditeurs d'origine américaine.
C'est pour ça, moi j'ai l'impression...
Mais vous-même, vous savez.
De voir un film fait par des gens d'Hollywood qui votent tous démocrates et qui critiquent Trump. Et donc, même dans le film de super-héros comme ça, il faut faire passer ce tel message. Mais c'est fatigant et c'est pas adapté. C'est mal fait, c'est grossier, vulgaire.
Alors, juste un petit point que moi j'ai bien aimé pour coup dans le film, par rapport à la manière dont ils ont montré Gotham. Enfin, ça y est, on a quitté le Gotham de Nolan avec ses grands immeubles tout beaux, tout propres. Là, on est dans un truc, voilà, c'est... c'est le quartier des Chemicals, donc a priori, c'est un quartier plutôt pauvre. T'as pas envie de vivre à côté de cette merde. Mais du coup, voilà, on est quartier plutôt
c'est
populaire.
C'est pas mal, ça, ouais. Ouais.
Et j'ai bien
ça,
aimé
ça
la
reste
fin...
quand même assez propre. Hein,
ça reste quand même plutôt propre, mais j'ai bien aimé la fin du film où on arrive dans le... on a le port de Gotham à toute fin, mais avant, t'as le parc d'attractions en ruine.
Ça,
ouais.
Et là, pour le coup, on a le Gotham qu'on voit plus dans les jeux vidéo, qu'on voit plus dans les BT. Dans les BD, un truc bien noir, bien crade, bien sombre, où t'as l'impression que t'as une brume perpétuelle sur Gotham, un truc qu'on n'a pas vu au cinéma depuis Burton.
Moi,
c'est ce Gotham-là que j'aime bien.
Et puis, mine de rien, les scènes d'action et scènes de bagarre, moi, j'ai trouvé quand même plutôt bien foutues.
Oui,
hein,
sauf la dernière.
Oui, la dernière, mais toutes celles dans le commissariat, où il y a quand même pas mal de... par rapport à Suicide Squad, encore, où c'était de la bouillie.
Mais ouais, les chorégraphies de combat, je les ai trouvées plutôt bien. Sauf la dernière, malheureusement.
Je les ai oubliées, vraiment.
Il y avait des choses, c'était pas mal, quoi. Il y avait des bonnes situations, il y avait des astuces.
Est-ce que...
Mais il y a quand même un truc, enfin une scène, moi, qui j'arrive pas à savoir si c'est assumé ou pas, mais tu parlais, par exemple, tout à l'heure du truc un peu avorté, de tiens, elle ouvre un placard, il n'y a pas d'armes, ah ben on en retrouve tout de suite après. Et c'est le genre de truc où je me dis, genre, est-ce que le film assume ça ou pas? Mais il y a quand même une scène où elle se prend sur la tranche l'arrosage automatique là, de l'alarme incendie. Elle est détrempée au point que... il n'y aurait pas eu toute cette campagne en mode on essaie de pas trop la sexualiser, mais je me serais dit, je comprends pourquoi elle a un t-shirt blanc depuis le début de la scène. Donc elle est donc détrempée, elle coule de l'eau de partout et... On est dans la continuité de la scène. Elle change de pièce, elle est toute sèche.
Bien sûr.
Et je me dis, est-ce que c'est vraiment genre un clin d'œil assumé dans le côté super pop du film, comme tu peux avoir dans
je
des films japonais où les gars, ils balancent du sabre partout autour d'eux, il y a du sang qui gicle partout, leur chemise, elle reste hyper blanche. Mais là, j'avais pas l'impression que c'était assumé. J'ai juste eu l'impression, c'est genre, on a eu la flemme, c'était chiant de la faire tourner mouillée, c'est pas grave, on s'en apercevra pas.
C'est peut-être une erreur de script. Hein,
ou une erreur de script
non,
aussi.
Non, moi, je pense au contraire que c'est la peur absolue de sexualiser le personnage, alors que c'est Harley Quinn. Je veux bien croire, comme tu disais, que le personnage a changé et que tu peux faire une version pas sexuelle d'Harley Quinn qui n'est pas là à draguer tous les mecs, etc. Je veux dire, c'est quand même un personnage, quoi que t'en fasses, elle est jamais en pantalon, elle est jamais en col roulé. C'est même fou de faire un film entier
après,
où elle a pas une scène où elle est... elle utilise son corps de façon à même dans une scène d'action, mais tu vois, d'avoir cette espèce de truc visuel sans être du male gaze dégueulasse d'homme, tu vois ce que je veux dire.
C'est un truc que j'ai remarqué aussi dans les comics, ils essayent de moins en moins d'hypersexualiser leur personnage.
Je le comprends.
Il y avait déjà ça dans Wonder Woman où il n'y a pas un seul...
Bien sûr.
D'ailleurs, si on compare le film Wonder Woman et puis Batman vs Superman ou Snyder, pour le coup, il y a ce côté sexualiser les scènes avec Wonder Woman où il n'y en a plus du tout dans...
Sauf que lui, il sexualise autant les mecs, donc...
Mais en tout cas, il n'y en a plus du tout dans le film officiel Wonder Woman parce que... entre-temps, mentalité a changé, donc c'est pas innocent non plus.
Mais à la limite, ça me dérange moins dans Wonder Woman, parce qu'elle a ce côté... elle a ce côté tellement digne, déesse, je sais pas quoi.
Ça n'empêchait pas dans les comics d'avoir des...
Bien sûr.
Non, mais après, je suis d'accord, par exemple, qu'il y a quand même un gouffre, entre, je pense à la scène de Suicide Squad, où t'as Harley Quinn...
qui fait un striptease.
Qui fait un striptease à un mec, parce qu'il y a Joker qui fait « Vas-y, ma bitch, amuse-le, en gros. » Il y a quand même un juste milieu, tu vois.
Mais très bien même d'aller dans cette... tu veux, tu vois, un mec comme Todd Phillips, s'il fait un Joker 2 et qu'il veut mettre Harley Quinn, il choisirait une de ses voies. Soit il ferait une Harley Quinn très sexuelle, très... ou il en ferait un truc différent, mais il irait à fond dans l'un ou l'autre, parce qu'il pourrait se le permettre.
D'ailleurs, je pense à ça. Il y a une BD... alors, c'est une série courte Batman qui était sortie, qui s'appelait White Knight. Où, alors le principe c'est très rapide, le Joker redevient saint, attaque Batman en justice, en disant que c'est lui le vrai criminel à Gotham. Et dans la BD, une idée qui était vachement bien, c'est qu'on a deux Harley Quinn. Et en fait, t'as la vraie Harley Quinn, la psychiatre qui tombe amoureuse du Joker, et en fait qui te dit au bout d'un moment, bah, en fait, elle revient parce qu'elle s'était barrée, elle en pouvait plus de lui. Et la bimbo de service, la cruche, en fait, qui est... une fan absolue du Joker, qui a pris la place d'Harley Quinn, et le Joker s'en est jamais aperçu. Et donc t'as une espèce de dualité comme ça entre le personnage, entre à la fois Harley Quinn, c'est une meuf intelligente, qui est tombée amoureuse du mauvais type, et à la fois, bah, des fois, c'est une bimbo conne. Voilà.
Mais moi, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à choisir dans Birds of Prey, parce qu'elle n'est pas forcément très intelligente dans ce qu'elle fait, psychologiquement, dans les plans qu'elle a, etc. Donc on te dit, bah oui, mais elle est folle. Ouais, elle est folle, mais elle fait rien non plus de forcément irrationnel, à part se bourrer la gueule à un moment, etc.
Bourrer la gueule, c'est pas irrationnel. Hein.
Voilà, non, mais tu vois.
Il y a trop de gens qui le font sur la planète pour que ce soit irrationnel.
Le,
hein.
Le personnage n'est pas. Je sais pas en fait comment il pense. Comment,
alors, pour le coup, je trouve quand même que le film voulait avoir un côté délire, mais je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin.
Ouais.
Et notamment, je trouve que la première partie, ils avaient bien commencé. Et malheureusement, je trouve, à partir du moment où Harley Quinn se prend une mandale dans la tronche par Ewan McGregor, qui a une espèce d'hallucination, elle se voit...
Oh là là, mais ça c'est terrible, c'est terrible. C'est nanardesque au
non,
possible.
Non mais il y a ça, voilà, qui est un peu délire, qui te sort un peu du film, et après... Bah, le film s'est calmé.
C'est ça, c'est très bizarre en fait, parce que ce passage, tu vois, genre vraiment quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah, mais ouais, en même temps, je crois que c'est encore pire que ça soit arrêté là, parce que, ok, bon, moi, j'aimais pas du tout le fait que le film prenne cette direction. Et puis, au final, il l'assume pas. Il n'y a plus jamais rien qui ressemble pendant le reste du film. Et là, tu dis, mais en fait, tu te demandes encore plus à quoi ça servait, quoi.
Rien n'est assumé. C'est vraiment, il n'y a aucun parti de sa personnalité qui est vraiment assumé, quoi. Que ce soit sa folie, son intelligence, il n'y a rien, quoi.
Moi, c'est juste une nana impulsive.
Ah ouais, non, vraiment. Mais je me demande si, encore une fois, est-ce que c'est moi parce que c'est vrai que je me les tape tous, hein, les films de super-héros. Est-ce que c'est moi qui, juste, j'arrive plus à accrocher à ces univers-là? En même temps, je trouve toujours des trucs, tu vois. J'aime beaucoup la série Titan, là, sur Netflix. Logan est un de mes films préférés de ces 10 dernières années, vraiment. Donc, ça se trouve, c'est pas moi. Est-ce que vous avez pas une lassitude quand même sur certains, je veux dire, clichés qui reviennent dans beaucoup, tu vois? Par exemple, ce personnage de la gamine, ça fait quand même un paquet de films de super-héros qu'on en a un. Alors dans Logan,
c'est pas tout à fait la même.
Ouais,
vous avez pas quand même une sorte de lassitude du blockbuster actuel de super-héros?
Bah, justement, moi, je me suis posé la question inverse, parce que c'est pas typiquement le genre de film que je vais voir. Je regarde quelques Marvel, mais là, typiquement sur l'univers DC, ma connaissance de l'univers se limite aux deux derniers films de Nolan et au Joker là de Todd Phillips. Donc, comment dire que je suis pas du tout
pas
dans le délire. Donc, je n'ai pas vu Suicide Squad ou quoi que ce soit. Là, je suis juste allée voir Harley Quinn parce qu'on m'a dit qu'il était moins pire que les autres. Donc, je ne sais pas ce que sont les autres. Et je me suis vraiment posé la question pendant le film de me dire, ce personnage, à la fois, il m'insupporte, mais à quel point est-ce que c'est aussi dans l'identité de la franchise, je ne le sais pas. Et d'un autre côté, par d'autres aspects, ce personnage, je le supporte, mais à quel point, je le supporte là pendant 1h45 ou je ne sais plus exactement combien de temps. Mais très clairement, je ne manquerai pas une série de 5 ou 6 films avec ce genre de personnage. Et en fait, ouais, je me pose cette question de moi qui suis un peu outsider de cet univers. à quel point j'ai pas les clés pour comprendre dans quoi ça s'inscrit, parce que je trouve ça très oubliable, mais j'ai aucun attachement après préalable au personnage, j'ai aucun attachement préalable à l'univers, donc je sais pas à quel point justement est-ce que ça peut juste se contenter de reproduire des clichés qu'on a déjà vus.
Moi je pense que au contraire de ce que tu dis, ça ne devrait jamais, un film ne devrait pas nécessiter d'avoir une connaissance ça devrait
je suis d'accord,
tu vois, fonctionner en soi-même.
Et là pour le coup, j'ai pas l'impression que ça ait une connaissance qui m'est manquée pour voir le film. Il y a vite fait une référence aux événements d'avant la première partie de son origin story qui t'explique d'où elle vient, mais voilà, c'est juste ok, ça place le personnage, ok, je vois qui c'est. Le Joker que j'ai en tête, c'est celui de Joaquin Phoenix, tu comprends bien que c'est pas le même, mais voilà, c'est vite fait et après on est sur l'histoire et il n'y a pas besoin du reste du contexte. Mais c'est juste effectivement,
comme Zenam, c'est leur volonté maintenant de faire des stand-alone, ils ont essayé de courir après Marvel, ça n'a pas fonctionné, donc là c'est des films qui suffisent à eux-mêmes.
Sauf que le film fait très grande introduction avec les trois nanas à la fin. Ça peut tout faire un prochain film.
Mais la question en fait que je me suis posée, c'est vraiment plus vis-à-vis du parti de mise en scène qui moi m'a insupporté, comme j'en parlais au tout début, l'ultra gabotinage, etc. Est-ce que c'est un truc qui est assumé dans le reste de la franchise d'ici ? J'ai pas l'impression.
Non, mais c'est la nouvelle direction, parce qu'à la base ils voulaient faire des choses plus dark. Ça n'a pas marché du tout, donc maintenant c'est ce côté un peu...
Depuis, on y a eu Aquaman et Shazam qui nous ont montré que ils partent vers un truc plus...
plus léger.
Plus léger,
Mais de base, c'était pas la direction qu'ils avaient prise.
Mais parce que justement, chouette, on a un personnage féminin, un discours un peu féministe, mais au final, pour lui donner un personnage effectivement totalement inintéressant, et quand on voit effectivement que le Joker, il y a eu celui de Heath Ledger, il y a eu celui de Joaquin Phoenix
T'imagines quand tu te dis, d'un côté, les hommes, ils ont le Joker de Todd Phillips, et les femmes, elles ont ça.
Et les femmes, elles ont ça, quoi.
Enfin,
c'est très mal.
Les femmes ont eu Catwoman de Tim Burton, quand même. Donc, je pense que là...
Non.
Catwoman chez Tim Burton.
Et la Catwoman de Halle Berry.
Oui, mais bon, là, on va tirer sur les armes
blanches. Elles ont eu ça, voilà.
Non, ça, c'est
et pour le coup, Catwoman, où il y a le côté provocant, le côté sexuel, puis côté féministe, là, il y avait tout.
Il y a Berry qui se lèche.
Bon, là,
bien
c'est,
sûr.
Qui
joue au basket.
Non,
pas. Ça fait mal, et je pense que t'as raison. Ça serait. Peut-être que Todd Phillips, c'est le mec pour faire ça, j'en sais rien. Moi, Joker, j'ai des. Je suis moyennement convaincu, mais il faudrait un grand film avec un personnage comme ça, mais pris au sérieux, quoi.
Ouais, bah oui.
Et Harley Quinn serait le personnage parfait pour ça.
Là, on est dans un truc de divertissement. Joker, il se prenait vachement plus au sérieux. C'est pas les mêmes types de films, c'est pas les mêmes sujets.
Sauf que, encore une fois, c'est un film qui a des vertus un peu politiques, messages, etc., tu vois.
Je pense pas que c'est une grande ambition. Je pense que c'est parce que c'est dans l'air du temps, ils t'ont placé quelques pastilles, mais je sais pas, il n'y a pas du tout ce projet-là.
Parce que pour le
puis il y a Margot Robbie derrière qui, je crois, est coproduit, donc elle a voulu avoir un perso un peu plus affiné que dans Suicide Squad, mais je pense pas qu'il y ait de volonté.
Il y a plein de gens qui disent que le Joker, c'est un film ultra politique. Moi, je pense que c'est moyen politique, c'est genre politique Taxi Driver.
C'est un film ambivalent, quoi.
C'est ça.
Parce que
tu peux prendre d'un côté, le prendre de l'autre.
Mais ça, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Moi, j'ai des réticences sur le film, mais au moins, le film pose question. Là, enfin...
Oui, mais bon,
s'il pose question sur Bernie Sanders...
Bernie Sanders, quoi.
Poser des questions, c'est bien. Avoir un point de vue et t'y tenir, c'est bien aussi, tu vois. Le Joker, il te laisse dans le doute. Là, bon, Harley Quinn, la question se pose même pas. C'est un film de divertissement.
Oui, voilà.
T'aimes pas, bon.
Je sais pas.
Est-ce que ça a été divertissant ?
Non, pas du tout. Moi, ça m'a beaucoup énervé, hein, donc j'avais envie de quitter la salle.
Moi, j'ai beaucoup aimé, mais bon.
Moi, j'ai passé la première moitié du film très énervé à vouloir quitter la salle, et à la fin, je me suis laissé prendre, donc voilà.
Ça se regarde, ça passe.
Ouais. Vous avez tous les avis.
Ouais.
Et sur ce camailleux d'avis, est-ce que quelqu'un a envie de conclure? Justin et beaucoup, nous avons une histoire dans un vieux podcast Istasia, une histoire
Bernie
de camailleux.
Bernie Sanders, j'arrête sur Bernie Sanders. En plus, j'aime bien Bernie Sanders, j'ai l'impression de passer pour le... Mais non.
Pour le fasciste.
Ouais, c'est ça. Mais non, c'est juste, je trouve ça de mettre ça dans les films.
À la fin, j'ai beaucoup aimé, ils arrivent au port. Et t'as, la baie des fondateurs ou je sais pas quoi.
Ouais, c'est ça.
Et t'as une statue, c'est clairement le pingouin.
Ah, peut-être.
Voilà,
ouais.
Moi j'ai remarqué ça. Et à un moment, je me suis demandé aussi, j'ai mal regardé, tout s'est passé très vite, mais j'ai cru voir un type avec une veste avec des points d'interrogation dessus. Mais je suis absolument pas sûr de cette info.
Parce que là, il y a le prochain Matt Reeves là, qui sort avec Pattinson.
Avec Pattinson, où il y aura...
Mais ça va revenir à un ton super grave, etc.,
alors,
je pense.
Dans la manière dont ils le vendent pour l'instant, ils nous disent ça va être une histoire de Batman, et plus basée sur l'enquête.
Okay.
Donc moins action, voilà. Plus,
détective.
Que, voilà, Batman est censé être un détective. Il paraît, on l'a jamais vu dans les films pour l'instant, mais il paraît que c'est un détective.
C'est le meilleur détective du monde.
Du monde.
Mais ça, même dans les Snyder, tu le voyais pas trop. Hein.
Mais sinon, mine de Margot Robbie, quand elle lâche l'éthique ou quand elle se calme un petit peu, il y a quelques moments qui fonctionnent.
Dans d'autres films, moment, tu
veux dire dans le moment où il y a un personnage qui l'a trahi, je crois que c'est l'espèce de
son logeur. Ah oui,
qu'est-ce que ça fout là, ça.
Et puis du coup, elle aussi, elle décide de trahir de son côté. Il y a un petit truc qui passe, alors, moi, je trouve, ce moment-là.
Pour le coup, le logeur, c'est vraiment parce que, si vous repensez au film, aucun personnage masculin n'est positif.
Mais bien sûr, c'est tellement épuisant.
C'est tous des connards.
Mais je veux dire, son interprétation de la Sarah Q à ce moment-là, il y a quelque chose qui fonctionne quand même.
Comme le gars qui fait son sandwich.
Cœur a été brisé.
Voilà, c'est ça. Non, mais je trouve que ça marche. C'est sur le moment où, sous la grosse rigolade, il y a un petit truc qui passe.
Elle était très bien dans le truc de patinage, là. Comment ça s'appelait?
Tonya Harding.
Tonya, sur Tonya.
Aïe,
Tonya. Je pense que c'est une très bonne actrice en plus. Mais ouais. Je la trouve très mauvaise là dedans.
Mais ouais, et enfin oui, pour revenir un peu ce que je disais tout à l'heure avec Loris, parce que c'est vrai que moi c'est le truc qui m'a interrogé tout le film, c'est de se dire à quand un rôle féminin et en même temps qui sérieux pour un personnage de super-héros, parce que enfin pas sérieux parce que j'ai pas vu Wonder Woman ni Captain Marvel, bon, c'est pas des films a priori qui cabotinent autant.
Non, mais
en tout cas un film un peu torturé, même si ça c'est un peu l'excès inverse de dire torturé, mais
complexe.
Mais avec une voix, voilà, complexe,
en fait,
et avec une vraie occasion pour une actrice de donner un jeu qui soit nuancé.
Parce que Wonder Woman,
Michelle Pfeiffer.
Oui, mais clairement, mais t'as totalement raison, parce qu'à la limite, le Wonder Woman, c'est un personnage qui est très très pur, quoi, qui est d'une compassion absolue.
Elle fait partie de la Sainte Trinité de DC Comics. Elle est trop parfaite pour.
Mais elle a pas la complexité que Koff. Parce qu'en fait, peut-être que ce qui m'énerve autant, c'est que j'adore Harley Quinn. Vraiment, c'est un personnage que je trouve, mais génial, quoi, vraiment, tu as tout, quoi, tu as la complexité psychologique, un personnage qui a tout abandonné par amour, enfin, mais t'es scénariste, mais c'est un rêve, quoi, t'as tout, quoi. Donc de voir qu'on traite ça de cette façon, ça me frustre.
Il y a une époque, il y avait Whedon qui voulait faire un film Batgirl, qui a été annulé parce que parce que Justice League, voilà, le film de la Discord, le film du mal, le film dont on aura peut-être un jour la version complète.
Oui, ça j'y crois au moins.
Personne n'y croit.
Légende dit.
Non.
Voilà.
Mais après, est-ce que vous avez vu un petit film sorti récemment qui s'appelait Logan?
Récemment. Parce que il date un petit peu ton machin.
Quand vous dites les scènes vraiment de combat sont bien là, c'est génial dans Birds of Prey.
Moi j'ai pas dit
ça. Pas dit génial, mais j'ai dit c'est efficace. Honnêtement, c'est pas de la bouillie, c'est pas surdécoupé.
Souvenez-vous de la fin de Logan quand il arrive dans la forêt en sautant en avant avec ses lames là et qui tranche les gens en deux. C'est quand même un tout petit peu plus impressionnant.
Oui, mais je suis désolé, ça ne vaut pas John Wick 3. Ou Hardcore Henry.
Couper son micro.
C'est
lui qui monte. De toute façon, même si tu coupes son micro, il se rajoutera au montage. T'inquiète pas.
C'est ça, parce que j'ai le matos également.
Merde.
Non, mais on verra ce qu'ils font. Je suis pas sûr que ça serait ta main, le film. Donc il n'y aura pas de.
Ils ont changé le titre, d'ailleurs.
Ils ont changé le titre. Ils le mettent. J'espère que c'est pas. Qui vont pas donner comme explication que c'est un truc de meuf comme Ocean 8, etc. Je pense pas que ce soit ça la raison. Je pense juste que c'est vraiment raté.
Non, mais je pense
raté.
Aussi que comme toi, il y a beaucoup de gens qui ont une certaine lassitude, qu'il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de voir les films de super-héros parce qu'il y en a trop qui sortent tout le temps.
Mm-hmm.
Et encore, on n'est pas encore l'année prochaine. Attendez de voir.
Ouais.
Mais non, mais c'est pour ça.
Et
mais,
puis le souvenir après... de Suicide Squad, parce que c'est quand même le même univers.
Ouais. Donc,
mais d'ailleurs, ils en font un autre, on va retrouver Harley Quinn, on va voir comment.
Avec James Gunn, c'est lui qui le réalise.
Enfin,
ça quand même promet.
Ils vont faire les deux teams de bras cassés et Marvel et DC, la Suicide Squad et les Gardiens de la Galaxie.
Mais j'ai quand même plus confiance en un James Gunn que je ne sais même pas qui est la meuf qui a fait.
Cathy Yan. Mais il faut donner.
C'est son premier long métrage.
Oui, il faut donner leur chance, voilà, aux réalisatrices.
Non, mais non.
Ah, écoute,
quelqu'un qui a des bonnes idées.
Certes,
ou alors
mais,
c'est Catherine
Bigelow,
ok, quoi. Mais...
Voilà. Non, mais après...
Même moi, j'ai du mal, hein, ce truc de réalisatrice sur les films d'héroïne.
Bah... Non mais... quand tu mets aussi en général une jeune réalisatrice qui a pas beaucoup d'expérience sur un film comme ça, je me pose aussi la question de à quel point c'est son film et à quel point on l'a mis là pour avoir un nom féminin.
Réalisateur, hein,
parce que voilà, quand je dis ça, c'est pas du tout par rapport à des questions de genre ou quoi que ce soit, mais très clairement, on est sur des studios qui prennent un réalisateur qui vont pouvoir, c'est quand même en bonne partie des films de commande, et ouais, quelle liberté est-ce qu'elle a eu là-dedans, indépendamment du fait que ce soit une femme ou pas.
Je vais te dire, je pense que ça joue, parce que je pense que quand on va voir James Gunn, on lui pose pas la question s'il va faire les scènes d'action ou pas. Je pense qu'il va les faire. Que quand on va voir telle nana, je me souviens de Lucrecia Martel, tu vois, cette réalisatrice. Clairement, on l'a approché pour faire un film Marvel. On lui a dit, tu ne réaliseras pas les scènes d'action. C'est une seconde équipe qui fait scènes d'action. Elle a dit, mais c'est pas possible. Je peux pas faire un film où j'en réalise pas la moitié. Je suis pas sûr qu'ils disent ça quand c'est un réalisateur.
Je suis pas d'accord, parce qu'il y a le dernier Spider-Man.
C'est la méthode Marvel aussi.
Le dernier, c'est Far From Home. Où très clairement, au milieu du film, il y a une scène d'hallucination qui est réalisée de manière virtuose. On sait très bien que c'est pas le réalisateur qui l'a fait, quand reste du film est plein, une illusion de mystérieux.
Et cette scène
est incroyable.
Et cette scène, le reste
est complètement plat. Donc c'est certain que ce n'est pas lui qui l'a fait.
Cette scène,
c'est pas spécialement les réalisatrices.
Cette scène n'a pas été tournée.
Est-ce que c'est aussi que de l'image de synthèse? Oui, j'avais
cette scène.
Mais ça n'empêche pas quand t'as un Sam Raimi sur un Spider-Man en synthèse, c'est lui qui a dirigé, qui a donné toutes les instructions.
C'est un peu différent, parce qu'il n'y a pas d'équipe de tournage à envoyer pour faire cette scène. Cette scène a été créée.
Oui, mais quand t'as un Sam Raimi qui fait un Spider-Man, même les scènes les plus numériques qu'il puisse y avoir, c'est très bien, c'est lui qui a fait la conception de la scène. C'est pas une équipe de effets spéciaux qui a tout fait. Lui, il a tourné les scènes de dialogue, donc c'est pas spécialement.
Après, c'est aussi la manière dont sont faits ces films. Par exemple, les derniers Marvel, genre Infinity Wars et tout, les effets spéciaux, c'est pas une boîte qui les fait. C'est plusieurs boîtes dans le monde. Black Panther, c'est pareil. Et souvent, s'il y a des problèmes au niveau des effets spéciaux, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Même en séparant les trucs et tout, c'est des travails dingues.
Parce que c'est des films de producteurs et pas des films de réalisateurs.
Oui, je suis vraiment d'accord.
Kevin Feige,
de toute façon, tous les problèmes des blockbusters aujourd'hui, on voit bien que les gros soucis en général, c'est parce que tu as la production qui est derrière, qui ne veut pas lâcher le truc.
Et quand elle se fait virer, laisser faire les
réalisateurs. Qui laisse faire les gens compétents, merde, c'est pas leur boulot. Ouais.
Regarde un Edgar Wright qui se fait virer d'Ant-Man. Là, ils veulent avoir Sam Raimi pour faire. Doctor Strange 2, mais c'est impossible. Des mecs aussi créatifs, tu les fais pas tapiner, quoi.
Je sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait Noah Hawley, le showrunner de la série Légion.
Fargo.
Qui avait. Alors, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'est lui qui devait faire le film sur Docteur Fatalis.
Ouais.
Et je me dis, s'il le laisse faire, ça pourrait être
de la vie.
Mais faut qu'il
jamais de la
Fox,
vie.
Non, mais maintenant Fox, c'est Disney. Donc
jamais de la vie.
À la base, ça aurait été Fox seul, avant qu'il Disney prenne en charge, peut-être, pourquoi pas. Mais là,
bien sûr, oui.
Le temps s'est repris en main, donc
c'est fini. Le temps où tu pouvais avoir un film comme Logan, par exemple, je sais pas si j'en ai parlé, c'est fini.
Tu tournes un peu en boucle, hein.
C'est Bernie Sanders, c'est Logan. J'ai deux trucs, c'est tout.
Sur ces magnifiques.
C'était deux héros, Bernie Sanders et Logan.
Voilà.
Votez Logan.
Bon, eh bien, merci beaucoup. Je vous propose de continuer à déconstruire l'industrie hollywoodienne des films de super-héros en off et de laisser cette pauvre Harley Quinn. J'avais envie de dire, reposer en paix. La pauvre, elle est toujours en salle quand même. Donc, ne soyons pas trop mesquins. Mais en tout cas, merci pour ce grand débat qui nous a emmenés loin. Harley Quinn, un film féministe ou pas, il y a des tas de questions à se poser, à vouloir interpréter, mais vous pouvez également en juger, chers auditeurs.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.